Alors, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter pour ceux qui nous suivent sur Internet, s'il vous plaît?
Je m'appelle Ahmed Kouyach, je suis historien, professeur à l'université Galatasaray et occasionnellement à d'autres universités. Et je suis spécialiste, disons, de la période du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e.
C'est effectivement pour ça qu'on voulait vous voir. Il se trouve que les personnes qui nous suivent sur Internet nous posaient la question de savoir comment les manuels scolaires traitaient la question de ce que nous appelons en France le génocide arménien, savoir exactement quels étaient les mots employés pour cette période-là, les litotes, enfin, quelle est la manière dont les manuels scolaires font une allusion aujourd'hui à cette période. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Eh bien, d'abord, même sans les événements de 1915, la question arménienne, etc., etc., la période que nous appelons la seconde monarchie constitutionnelle n'était pas traitée d'une manière, à mon avis, adéquate dans les manuels scolaires jusqu'à une date très récente, n'est-ce
Alors,
pas?
quels étaient donc les mots employés quand on passait sur cette période-là dans les manuels?
On utilisait le terme la seconde monarchie constitutionnelle, mais
Oui.
toute la seconde monarchie constitutionnelle ne couvrait que 3 pages, photos et images compris, n'est-ce pas, dans les manuels scolaires avec lesquels j'ai été au lycée, par exemple.
Oui.
Mais ça, c'était plutôt l'approche républicaine. À la seconde monarchie constitutionnelle, ça n'avait rien à voir avec la question arménienne, si vous voulez. C'était des gens qui étaient à l'opposé justement de Mustafa Kemal, le fondateur de la République, donc on n'en parlait pas trop dans les livres d'histoire, n'est-ce pas? C'est à cause justement de ce qui s'est passé en 1915 que la seconde monarchie constitutionnelle a commencé à, disons, attirer plus d'attention par ceux qui font ces manuels d'histoire.
Alors vous-même, vous disiez quand vous étiez jeune, donc au lycée, lors de votre cursus, vous n'avez donc jamais entendu, lors de votre cursus au lycée, le terme génocide arménien. Au mieux, les jeunes enfants d'il y a quelques années qui étaient au lycée, qu'est-ce qu'ils pouvaient entendre de cette période 1915, au mieux?
Écoutez, là, vous allez un peu vite, parce que non seulement nous n'entendions rien dans notre cursus, mais nous vivions avec plus d'Arméniens à Istanbul qu'aujourd'hui. J'avais au moins une dizaine de camarades de classe arméniens à l'époque, n'est-ce pas? Et par conséquent, non seulement on ne nous disait rien dans les livres, mais que, ayant été istanbuliote, vous ne pouviez même pas imaginer une telle chose, puisque nous vivions avec les Arméniens. Notre cuisinière était arménienne chez moi. Ma mère avait une autre dame qui lui, une couturière arménienne. Et puis, ma première petite amie était arménienne, en plus de mes camarades de classe. Donc, il nous était très difficile d'imaginer aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas comme aujourd'hui, quelque chose que l'on connaît, mais que l'on ne trouve pas dans les manuels. À l'époque, on ne le connaissait pas non plus.
Et vos amis arméniens ou vos relations arméniennes n'évoquaient pas cette période, n'évoquaient
Non,
pas ces événements?
pas du tout, pas du tout. Et c'était l'attitude, et c'est encore l'attitude majoritaire parmi les Arméniens d'Istanbul, du moins. Et c'est pour ça que feu Monsieur Donald Tink avait des relations plutôt tendues avec l'Église arménienne.
Aujourd'hui, vous-même travaillez, si on a bien compris, à l'échafaudage de documents scolaires. Est-ce que vous-même tentez effectivement de réintroduire cette question difficile?
Oh oui, non seulement tenté, mais je l'ai fait. Mais malheureusement, le livre n'est pas encore paru. C'est dû pour le mois de mai ou juin, ça dépendra. Mais le sujet est introduit, mais d'une optique différente. Par exemple, j'ai vu un manuel scolaire qui couvre le sujet d'une manière assez détaillée, mais d'une optique qui est plutôt, disons, la version officielle d'Ankara. Et là encore, je n'ai pas tout à fait la possibilité de parler d'une version officielle Ankara, puisque le gouvernement et les milieux, disons, étatiques, ça fait deux, j'en suis sûr, vous en êtes tout au courant. Je ne voudrais pas dire officiel dans le sens du gouvernement, ok? Mais ceux qui sont responsables, disons, de la production scolaire en forme de manuel, par exemple, eux disent que, bon, ben voilà, il y a eu, disons, une relocation, n'est-ce pas? C'est ce mot qui est plutôt un anglicisme. Et
Donc déplacement pour les
ou,
Français,
ouais,
on pourrait traduire ça, déplacement population.
c'est même plus que ça, c'est une. On appelle ça une. Je ne me souviens plus du mot technique, mais un déplacement forcé, du moins, d'accord?
Déportation.
Oui, une déportation, voilà, c'est ça, la déportation. Mais eux, ils aiment plutôt rendre ça en turc et ils disent. Bon, ben voilà, un grand nombre d'individus ont été déplacés. Et pendant le trajet, les circonstances de guerre étant dures, il y eut des pertes. Mais tout compte fait, c'est peut-être une centaine, deux centaines de milliers de personnes qui ont été perdues sur les routes. Mais rien de tel comme des massacres, etc., etc.
Donc aujourd'hui, au jour où on vous parle, dans toutes les lycées publics, on enseigne ce que vous nous dites à l'instant.
Voilà, mais ça, c'est un livre qui est plutôt très récent. Les lycées, vous savez, les lycées viennent d'être réformés. Maintenant, nous avons des lycées de 4 ans. Qui ont commencé l'année dernière. Donc, ils n'en sont pas encore arrivés au stade d'étudier le XXe siècle dans le nouveau programme.
D'accord.
Okay? Et les manuels se, disons, construisent ces jours-ci. Et je n'en ai pas encore vu. Et j'aimerais bien en voir et peut-être écrire quelque chose là-dessus le jour où ils apparaîtront. Mon rôle de, disons, d'auteur et de directeur de volume, n'est-ce pas, de manuel d'histoire, ne consiste pas à écrire un de ces manuels.
D'accord.
Je sais que mon manuel, ou le manuel que moi je ferai, ne passerait pas. OK?
Vous pouvez nous dire pourquoi, ou c'est délicat pour vous de le...
Mais ce n'est pas. Là, la question arménienne est une question parmi d'autres. La façon dont je couvre la Première Guerre mondiale, la façon dont je couvre la révolution kémaliste, la guerre d'indépendance, etc., tout ça, c'est très différent. Si vous voulez, cette histoire officielle a du mal à accepter tout ça.
Vous en souffrez ou pas? Je veux dire, est-ce
Non,
que
je
vos
n'en
collègues
souffre pas.
ou
Non, non, non.
les gens vous font des pressions particulières?
Non, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, ça, c'est. Non. Enfin, il y a, à mon avis, une atmosphère parfaitement civilisée où nous avons. La chance de la possibilité de dire tout ce que nous pensons, là, aucun problème, ni en matière d'enseignement à l'université, ni en matière de publication. Bon, le reste, les journaux et les chaînes de télévision s'en chargent, de toute façon.
Est-ce que vous pensez que dans les années qui viennent, le terme crime contre l'humanité ou génocide a une chance d'être introduit dans le cursus scolaire?
Non, pas le génocide. crime contre l'humanité, c'est possible. D'ailleurs, je l'ai moi-même utilisé.
Oui.
Et je trouve que c'est une manière intelligente d'approcher la chose pour deux raisons. D'abord parce que le mot génocide gêne, mais à mon avis, à cause justement de la bonne connaissance du Turc moyen de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, c'est-à-dire que le Turc moyen est absolument pas prêt, et ne le sera jamais à mon avis, d'accepter que ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents ont fait aux Arméniens la même chose que les nazis aux Juifs. Et en tant qu'historien, je dois dire qu'ils ont raison.
Vous préférez la qualification de crime contre l'humanité?
Absolument, absolument. Le mot génocide, et ne me parlez surtout pas de génocide de Rwanda, etc., etc. Tout ça, c'est de la politique. Il n'y a qu'un seul génocide, c'est la Shoah.
Alors, crime contre l'humanité, même ça, j'imagine que tous vos collègues ne vous suivent pas sur cette qualification-là.
Ah oui, absolument, absolument. Il y a des gens qui ne peuvent même pas entendre... crime contre l'humanité.
Et les démarches que vous faites, si j'ai bien compris, sont des démarches qui sont soutenues par une ONG. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure?
Non, pas les démarches. Mon livre d'histoire.
Oui.
Ouais. Mais par exemple, quand nous avons, il y a presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, nous avons organisé cette conférence sur les Arméniens ottomans, ce n'était pas un ONG, c'était nous, les historiens, des amis dans différentes universités. Non, là, c'est autre chose. L'ONG, c'est uniquement pour le livre d'histoire que je suis en train de préparer. Enfin, il est préparé, il attend d'être sous pression.
Est-ce que votre démarche a des chances de marcher alors que des générations entières ont été éduquées dans une direction différente que celle que vous essayez de mettre sur pied? Est-ce qu'il est facile de changer la direction de cette barque éducative?
Ce n'est pas facile, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Les gens changent. Enfin, vous avez des exemples de votre pays, n'est-ce pas? Votre père a lu des livres et qui ont été exportés aussi... au Madagascar, qui disait « Nos ancêtres, les Gaulois, avaient des yeux bleus et des cheveux blancs.
Oui. »
Hein? Bon, ça n'existe plus.
Non.
Eh ben voilà. Si ça change, crime contre l'humanité aussi peut venir. Mais tout ça demande un peu de temps. Et plus l'Europe insiste sur le fait que, d'abord, il doit y avoir un changement en Turquie, et ensuite l'adhésion... le changement retardera. L'Europe doit tendre la main à la Turquie, à l'aider à changer, dans le sens où elle veut qu'elle change, n'est-ce pas? À mon avis, s'il y a coopération, je pense que ça ira plus vite. Autrement, des gens comme moi resteront... comme une toute petite minorité qui peut-être serait vocale toujours dans les institutions universitaires, mais au niveau de la nation et surtout au niveau de l'éducation de la nation dans le secondaire, dans le primaire, etc., nous ne pourrons pas nous faire entendre.
Comment vous appréciez aujourd'hui la position des élèves que vous pouvez suivre, des étudiants, des élèves que vous suivez? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus ouverts que les générations précédentes à cette question?
Écoutez, les générations précédentes, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus, puisque je fais ce travail depuis 11 ans. Avant, je n'étais pas enseignant ici, j'enseignais aux États-Unis. Mais par exemple, ces élèves qui n'ont pas lu une seule ligne sur les événements de 1915, quand ils entendent mes cours d'histoire de la révolution turque et de la Turquie contemporaine, n'ont absolument aucun mal, aucune difficulté, si vous voulez, à prendre ce que je leur raconte, avec des documents à l'appui. Ce sont des gens intelligents, finalement. Et c'est peut-être... enfin, ne pas en avoir parlé jusqu'à présent est, à mon avis, un mal qui est en quelque sorte supérieur à, disons, dire qu'il s'agit, par exemple, de crimes contre l'humanité ou massacres, etc., au lieu de dire qu'il s'agissait d'un génocide. Voyez-vous, ne pas en parler était, à mon avis, le péché le plus important. Mais là, justement, je vois vraiment du mal comment un manuel d'histoire turc, disons, des années 60-70 ou des années 50, puisse en avoir parlé, puisque même, je dirais, la période jeune turque, hein, la seconde monarchie constitutionnelle, 1908-1918, n'était représentée que par 3 pages, cartes, photos et autres images compris.
On était hier sur le mausolée de Talat Pacha. On était assez surpris de voir qu'effectivement un monument assez imposant était dédié à ce personnage et aux autres jeunes turcs. Quelle est votre position là-dessus? Comment est-ce que vous percevez cette mise en avant?
Écoutez, ce sont des gens qui ont fait des choses très importantes.
Oui.
Si vous voulez, le fait que, par exemple, Talat Pacha, à mon avis, est l'un des plus grands responsables de ce crime contre l'humanité de 1915, d'un autre côté, a donné à l'Empire ottoman des choses très importantes. C'est comme si vous demandiez, je ne sais pas, à un républicain français de parler de Napoléon ou de Napoléon III, par exemple.
Vous ne craignez pas que ce genre d'expression publique perturbe justement la lecture historique que vos élèves peuvent avoir?
Ben écoutez, oui, bien sûr. Mais justement, on est peut-être au début du débat, parce que mes élèves ne le connaissaient pas du tout. Enfin, ceux qui auraient visité ou ceux qui habiteraient tout près de la mausolée, qui auraient connu un peu, et comme beaucoup d'autres hommes d'État, Talat Pacha aussi, a vu son nom apparaître sur quelques avenues, quelques rues à travers la Turquie. J'en connais une à Izmir, une autre à Ankara. Voilà, c'est ça. Mais autrement, ils n'ont vraiment pas étudié au lycée ce que Talat Pacha et compagnie ont fait de bien et de mal pendant cette décennie où ils étaient au pouvoir. Et ça, c'était quelque chose qui est inacceptable, même sans en avoir arrivé à parler de la question arménienne, voyez-vous. Mais ça, c'était un problème historiographique de la révolution républicaine. La République ne pouvait pas dire... Vous savez, moi, j'ai pris le code civil suisse, mais ces hommes-là, avant moi, avaient fait ceci, cela, cela, cela. Moi, j'ai adopté les caractères latins, mais ce sont ces gens-là qui ont commencé à donner les premiers signes d'un développement dans ce sens-là. Et autres, voyez-vous. C'est ça, c'est de la nature de la politique. Celui qui est au pouvoir doit s'approprier toutes les bonnes choses.
Pour ceux qui nous suivent de façon plus générale, si je vous suis bien, le mal aujourd'hui qu'on peut percevoir de l'extérieur en Turquie est beaucoup plus le fait d'une ignorance que d'une volonté d'effacer un crime odieux.
Absolument, voilà, et c'est ça que l'Europe doit comprendre. Les Turcs ne le savaient pas pour accepter ou refuser ce crime, si vous voulez, hein, ces événements-là. On le sait. Moi, je l'ai su quand je suis parti en France, à l'âge de 20 ans, pour étudier à l'université. Et il y avait aussi une certaine vie quotidienne, ici, surtout à Istanbul, qui nous obligeait vers cette naïveté, puisque, je vous le dis, j'étais entouré d'Arméniens jusqu'à ma maison, n'est-ce pas, en étant quelqu'un qui est né et grandi à Istanbul.
Dernière question, vous êtes optimiste pour les années qui viennent, ou est-ce qu'après l'épisode de l'assassinat de Hrant Dink, vous craignez un braquage de la situation?
Vous savez, être historien et être optimiste, c'est pratiquement synonyme. Ça ne peut pas être autrement. D'ailleurs, j'étais de ceux qui étaient là
au
funérailles, voilà, de Hrant Dink. Et j'ai été surpris par le nombre de gens, et ça m'a aussi fait un peu mal. La presse française ne l'a pas bien suivi, mais ça nous donne, bien entendu, le soir du meurtre, on était pessimiste, mais deux jours après, aux funérailles, on était optimiste. Et là, justement, ça a peut-être servi à quelque chose. C'est dommage, puisque Roland, c'était un ami. On s'était parlé, on s'était même mis beaucoup plus près l'un de l'autre que vous et moi maintenant. Mais malheureusement, sa mort a encore donné de l'élan, si vous voulez, à ce débat et aux gens beaucoup plus de courage pour rendre encore plus public ce débat. Et, ma foi, pour l'avenir, ça viendra. Mais, justement, ça dépend aussi des énergies des gens qui vont se recharger. Parce que moi, je ne me considère et je ne me considérerai jamais comme un militant pour quelque juste cause que ce soit, que cela soit. Je suis avant tout un universitaire. Et tout ce que je fais se limite à l'expression de ce que je connais de l'histoire, du passé. Je ne suis pas, si vous voulez, d'abord et avant tout, un citoyen qui répond à quoi que ce soit. D'abord, je suis un historien. Comme tel, je puis vous dire que... et l'histoire des 10 dernières années nous montre que les 10 années qui viennent vont enregistrer pas mal de, sinon d'exploits, du moins
de pensée.
Voilà, c'est ça, oui. De révision, si vous voulez. Hein. Mais il faut avoir la patience de la révision, n'est-ce pas? L'histoire ou l'écriture de l'histoire n'avance pas en forme de révolution. Bien que, en forme de contenu, le changement à venir peut être révolutionnaire, ça doit être répandu sur un temps suffisamment long pour que, justement, le peuple, les gens, la population en général, puissent l'adopter et dire, ben voilà, ça c'est... mon histoire.
Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage et merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions et je signale à ceux qui nous suivent sur Internet. Qui...